l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga.
Alors moi je suis très content d'avoir entendu quelqu'un ce matin dans une conférence à Darwin, une philosophe de l'environnement. Et ça fait du bien un petit peu de reposer les choses. Alors toi, tes travaux portent, Virginie Maris, sur l'épistémologie de l'écologie et des sciences de la conservation, sur l'éthique environnementale et la philosophie des politiques environnementales. Et tu viens de me dire qu'un livre est sorti, je ne l'ai pas lu, j'avoue. Alors c'est toi qui vas nous raconter, puisque voilà, c'est ton actualité. L'ours et la carotte, on est là pour donner la parole aux gens. Donc tu vas me dire, c'est un livre qui s'appelle « La part sauvage du monde, penser la nature dans l'anthropocène » et c'est publié au Seuil. Bonjour Virginie Maris.
Bonjour, merci pour cette invitation. Ben oui, je vais être contente d'en parler parce qu'effectivement il est tout frais. Peut-être je peux commencer à expliciter un petit peu ce titre, « Penser la nature dans l'anthropocène ». L'anthropocène, c'est un concept qui est un peu à la mode, on en parle de plus en plus, peut-être pas encore complètement généralisé dans l'espace public, mais ça ne saurait tarder. L'anthropocène, c'est une proposition de certains scientifiques à la fin des années 90 de donner un nouvel âge, une nouvelle période pour les datations géologiques de la Terre, donc la dernière étant l'Holocène. Nous sommes censés être encore dans l'Holocène. Et anthropo, c'est l'humain. Scène, c'est la période. Et ce serait de dire que finalement, la planète est entrée dans une nouvelle ère qui est géologiquement marquée par la composition de l'atmosphère, par la distribution des espèces sur la planète, par les taux, par les grands flux, on va dire, de gaz et de nutriments sur la planète, qui est marquée de façon géologique dans l'histoire de cette planète et donc qu'on est rentré dans l'ère de l'humain, il faut le dire comme ça. Le phénomène le plus évident étant la concentration inédite de gaz à effet de serre dans l'atmosphère liée aux émissions de gaz carbonique, entre autres, d'origine anthropique liée aux êtres humains.
Oui, parce que c'est la première fois en fait que l'homme laissait des empreintes sur Terre. Quand il marchait dans le sable, elles s'effaçaient. Mais maintenant, l'activité humaine, on la retrouve dans les couches qui se superposent, dans les couches terrestres. C'est-à-dire on retrouve cette pollution qui s'inscrit dans les sols. C'est-à-dire l'homme, par son activité, marque le sol, marque la croûte terrestre de son activité, de sa présence.
Alors tout à fait, on avait l'habitude de penser l'humain comme un agent historique. Hein, l'histoire est l'histoire des humains. On sait aussi que c'est un agent biologique. On savait depuis longtemps que les êtres humains, de façon significative, transformaient les écosystèmes. Et ça, c'est quelque chose qui est très ancien. Hein. On pense notamment à toutes les extinctions de mégafaune sur toutes les terres à la fois américaines, australiennes et nord-européennes colonisées par les premiers humains. Mais là, il s'érige, ou il s'érigerait, à l'échelle de l'agent géologique, transformant même la composition du sol, la composition de l'atmosphère. Alors, donc, c'est une proposition de scientifiques qui est aujourd'hui discutée, débattue ardemment, notamment par la Commission internationale de stratigraphie, qui va valider ou pas cette proposition. Et ce qui est intéressant, c'est que l'enjeu des débats peut sembler justement très technique, très scientifique, n'est pas tant d'admettre cette nouvelle ère que d'en dater la naissance. Quand est-ce qu'elle commence ? On pourrait dire, bon, bah, effectivement, c'est une question de géologue. Les géologues, ce qu'ils cherchent, c'est un point marqué dans une strate qui permettrait de pointer cette naissance de la nouvelle ère, de la nouvelle période que serait l'Anthropocène. Et selon le type de candidat pour cette naissance de l'Anthropocène, on voit se dégager des questions qui ne sont plus seulement des questions géologiques, scientifiques, techniques, mais qui sont véritablement des questions politiques et des questions philosophiques.
Oui, parce qu'il y a moi quelque chose qui, dans l'Anthropocène qui quelque part pourrait me poser problème, c'est que ça place l'homme à un niveau de responsabilité très important par rapport à son devenir, ça on va dire c'est le côté positif, mais ça le place aussi comme le seul qui peut apporter les réponses, c'est-à-dire la nature n'existerait à l'avenir que par la présence humaine et par ses choix à lui. Donc ça le place en démiurge, genre en dieu créateur ou destructeur.
Tout à fait. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que justement, mon projet dans cette part sauvage du monde, c'est de relativiser un petit peu ce constat. Je me permets quand même de revenir, de refaire un petit détour sur la question de la date de naissance en exposant brièvement les candidats à la naissance de l'Anthropocène. Certains vont dire finalement c'est le néolithique, c'est la domestication du monde avec effectivement des changements notamment dans l'usage des sols très significatifs. Et si c'est le néolithique, finalement c'est un petit peu une donnée anthropologique, c'est l'évolution de l'homme, de l'humain. D'autres vont dire non, c'est beaucoup plus tardif. En fait, c'est la colonisation américaine. C'est la période, c'est la transition colombienne, parce que là, notamment, on a des échanges d'espèces entre les deux continents qui sont sans précédent et un premier pic de déchargement de carbone dans l'atmosphère.
Du fait des terres brûlées ?
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça et je ne suis pas spécialiste. En fait, c'est surtout du fait de la décimation radicale des Premières Nations suite aux épidémies et au génocide actif de la colonisation qui a complètement transformé l'usage des terres, notamment dans les plaines. Et donc là, finalement, c'est l'Europe colonialiste qui devient un petit peu le point, et plus qu'une anthropocène, ce serait une colonialocène ou une europocène. D'autres vont dire, non, c'est la révolution industrielle, c'est la machine à vapeur.
Et moi, j'étais sur celle-là, perso. Hein.
Honnêtement, c'est celle, pour l'instant, qui reçoit le consensus le plus clair, notamment parce qu'effectivement, d'un point de vue quantitatif, on a une explosion via l'utilisation massive du charbon qui sera ensuite démultipliée encore par les énergies fossiles. D'autres vont dire non, si on veut vraiment le point, on va dire le point tournant dans la trajectoire, c'est, on parlait du pétrole, le point tournant dans la trajectoire, c'est la maîtrise de l'atome. Parce qu'effectivement, et là en termes de taux de radioactivité, les grands essais nucléaire à des fins d'armement ou à des fins de production d'énergie dans les années 50 sont marquées. On voit un changement, notamment dans les taux de radioactivité. Donc c'est la maîtrise de l'atome. Et puis d'autres enfin vont dire non, c'est la grande accélération. Donc,
celle qu'on connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Exactement. C'est l'après-guerre où là, effectivement, et alors les courbes se superposent d'une façon troublante, la population mondiale, le produit intérieur brut de tous les pays développés, la consommation des énergies fossiles, et j'en passe. Et dans ce cas-là, finalement, c'est plutôt le modèle, on va dire, néolibéral, en tout cas la globalisation économique post-Deuxième Guerre mondiale qui sera pointée.
Du coup, sur des périodes aussi grandes que sont les aires géologiques, ça se joue à 50 années. En tout cas, c'est un modèle, c'est-à-dire qui vient de la révolution industrielle et qui se poursuit après, dans les 100 années qui suivent. Et ça, au niveau géologique, c'est peanuts.
Tout à fait. C'est un battement de cils. Néanmoins, le terme anthropo gomme toutes ces questions en mettant l'humain au centre. Savoir si c'est l'humain du néolithique ou les grands plans du Fonds mondial international et de l'OMC, qui va arriver plus tard, mais qui se mettent déjà en branle dans les années 50, on a un levier politique un petit peu différent selon la charge qu'on porte. Alors, tout ça, c'est un petit peu des débats techniques. En tout cas, ça a permis comme ça de donner un nom à quelque chose qui est admis et qui est l'influence planétaire des activités humaines. Et moi, elle m'intéresse tout particulièrement dans le champ de la biodiversité, de la diversité du vivant, de sa diversité et de sa quantité. Là, pour le coup, souvent, je m'énerve un petit peu contre des visions du monde très quantitatives, mais dans la crise globale de la biodiversité, c'est pas simplement des espèces qui disparaissent, c'est des densités, c'est-à-dire que non seulement on a moins d'espèces, mais on a infiniment moins de nature et de nature sauvage sur nos territoires.
Il y a un dérèglement des écosystèmes, c'est-à-dire, et on sait pas cette machine-là où elle va se mener, où elle va aller pour elle-même, mais aussi pour nous, même si ça doit pas te plaire beaucoup. Ce côté utilitariste de la nature pour l'homme, c'est aussi une question.
Tout à fait. Et on subit de plein fouet les conséquences de collapse, d'effondrement d'écosystèmes, de communautés. On le voit sur les stocks de pêche, on le voit sur l'accélération, l'amplification des changements climatiques via la déforestation, sur la transmission de l'émergence de nouvelles maladies, etc.
D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Y avait rien d'autre, alors en somme, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il a bouffé la pomme, jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute d'Ève, il a rien fait lui, Adam. Il a pas dit, femme, je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs, c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam, il est mal tombé. Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, manque une pomme à l'inventeur qui l'a volée, c'est toi, Adam. Ève s'avance à fanfaronne et dit, mais non, papa, c'est moi. Mais d'ailleurs, elle était pas bonne, faudra laisser mûrir, je crois. Alors c'est la faute à Ève, s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit, attends, je cueille des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire, Dieu leur a dit, faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit, j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire et porter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève, si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés. Défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique, au premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule, il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule, avec trois bonhommes à la fois. Là c'est bien la faute à Ève, elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon, lui faudra encore attendre de devenir grand-papa, pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. On se repasse et puis qui dure, elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses, paraît que ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève, j'irai pas au paradis. Non mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent, j'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas. Ah.
On revient avec toi Virginie Marie sur ton livre « La part sauvage du monde, penser la nature dans l'anthropocène » qui est publié au Seuil. On a vu avec toi donc cette définition de l'anthropocène. C'est cette période où l'homme agit sur la nature de manière démiurgique, on peut le dire. Mais dans ton titre, il n'y a pas que l'anthropocène, c'est la part sauvage du monde. Donc c'est quoi cette part sauvage? C'est quoi d'ailleurs dans le cadre d'une terre qui serait complètement prise par l'activité humaine, cette part sauvage? Est-ce qu'il reste du sauvage? Il ne peut pas rester sauvage quelque part.
Alors c'est effectivement la grande question du livre. Quand on parle de l'omniprésence des activités humaines, on peut et on a tendance à d'un coup imaginer que finalement nous sommes en train de faire le monde, de fabriquer le monde, que le monde est entre nos mains. Alors oui, il y a des différences significatives de taux de CO2, là, mais les grands processus à la fois qui nous constituent en tant qu'humains et qui structurent le monde tel qu'on le connaît, nous préexistent et ne cesse pas, la gravité ne cesse pas d'attirer les pommes vers le sol depuis qu'on est rentré dans l'anthropocène. La sélection naturelle ne cesse pas d'agir sur le vivant depuis qu'on est entré dans l'anthropocène. Et donc j'essaye un petit peu de relativiser cette espèce d'extase, de stupeur et de fascination que peut exercer sur les consciences un discours comme celui de l'anthropocène, en rappelant que finalement nous sommes des arrivants assez tardifs. Si notre puissance semble illimitée, en réalité elle est extrêmement contrainte, parce que la marge de manœuvre reste totalement contrainte par les processus physiques, biologiques et biophysiques qui nous préexistent. Et donc, c'est une sorte de petit appel à l'humilité face à ce sentiment ou à cette impression démiurgique de fabrication du monde par l'homme.
Et je dirais de l'humilité aussi, parce que notre connaissance des mécanismes de la nature, avec notre poids, on ne les connaît pas bien finalement. Notre connaissance, elle n'est pas si forte que ça. On connaît ces mécanismes tant qu'on n'y intervient pas tant que ça dessus, mais on ne sait pas ce qu'on est en train de lancer comme truc. Donc là aussi, je crois qu'il faut un peu d'humilité, non?
Alors c'est très intéressant, et c'est très intéressant de le poser comme tu le fais, parce que justement, on a envie de faire les sciences de l'anthropocène et de dire finalement la nature sauvage n'existe plus. Aujourd'hui, on est chez nous partout. Et c'est quelque chose qu'on reproche notamment à l'écologie scientifique, de ne pas avoir suffisamment intégré l'homme dans ses modèles. Dans beaucoup de théories, on connaît quand même quelques petits trucs, et dans beaucoup de ces petits trucs qu'on commence à connaître les règles d'assemblage des espèces au sein d'un écosystème, sur la circulation des nutriments dans le sol et dans les écosystèmes terrestres également, on a souvent tendance à considérer les activités humaines comme des facteurs extérieurs, des facteurs de perturbation. Beaucoup de scientifiques, et pour certains à juste titre, reprochent à l'écologie ou aux scientifiques de ne pas intégrer l'homme dans leur modèle. Alors moi, j'ai envie de souligner l'importance d'une forme de vigilance par rapport à ce besoin d'intégrer l'homme dans les modèles. Parce que, et ça déjà Darwin, déjà un auteur que j'aime beaucoup, Aldo Leopold, le disait, la nature sauvage, la nature non influencée par les êtres humains, elle a déjà une valeur pédagogique. Elle nous permet d'apprendre ce qui se passe quand on n'est pas au centre du modèle, et de conserver cet horizon-là d'une connaissance de ce qu'il se passerait si on agissait moins ou si on agissait mieux, a déjà en soi une certaine valeur. Donc ça revient à cette question, qu'est-ce qui reste du sauvage? Quelle est la part sauvage du monde? Je l'ai abordé en disant, d'abord, on est sauvage, c'est-à-dire qu'avant d'apprendre à lire, à écrire, à discuter à la radio, j'ai des gènes qui me constituent, du sang qui circule, une histoire évolutive qui me détermine en partie et qui est finalement beaucoup plus structurée par cette longue histoire de
l'humanité dans la nature.
Et puis elle existe aussi physiquement, territorialement. Le décret d'Anthropocène pourrait signer un peu rapidement la mort de la nature, et ce faisant baisser la garde sur la nécessité de préserver des milieux peu ou pas impactés par les êtres humains, milieux qui demeurent encore, on va dire, à nouveau quantitativement, à l'échelle de la planète, on a encore d'immenses territoires très peu impactée par les êtres humains.
En France, on a la Guyane, si certaines mines d'or ne s'y installent pas trop vite.
Alors, j'espère que quand cette émission sera diffusée, le projet de montagne d'or sera définitivement mort et enterré. Mais en fait, c'est une sorte de vœu un peu irréaliste et je le regrette. On a effectivement, notamment en Outre-mer, des territoires et des forêts tropicales extrêmement riches et peu impactées. Mais on a aussi sur le territoire métropolitain national des cœurs de parc, des zones de libre évolution des forêts. Et ces initiatives se multiplient. Et c'est intéressant de les encourager déjà par cette valeur pédagogique qu'elles ont, de nous apprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus le premier moteur de transformation des écosystèmes. Ensuite,
c'est Hubert Reeves qui parle de cette importance dans la pédagogie, dans l'apprentissage des enfants, de se retrouver immergé en milieu naturel pour comprendre qu'il n'y a pas que l'homme et la société humaine sur Terre, mais aussi il y a ça. C'est-à-dire montrer aux enfants déjà... On parle déjà des enfants qui ne connaissaient pas les vaches, et pourtant les vaches c'est dans des prés, des territoires extrêmement anthropisés. Et donc évidemment dans la nature c'est encore autre chose et c'est indispensable peut-être.
Tout à fait, et en plus on a maintenant une quantité de travaux qui nous montrent que c'est indispensable physiquement et psychiquement, que la déconnexion de la nature va avec un coût. Notamment en termes de santé mentale et de bien-être physique, qui est aujourd'hui documenté, chiffré. Donc c'est important pour nous d'avoir cette capacité comme ça de s'émerveiller et surtout de cultiver cette espèce d'émerveillement humble, un émerveillement qui n'est pas un émerveillement sur notre propre pouvoir, mais au contraire un émerveillement de l'effacement, un émerveillement du retrait. C'est quelque chose, je pense, qui humainement nous enrichit, nous apprend beaucoup et nous apprend d'ailleurs également beaucoup sur nos relations avec les autres humains.
Et sur nous-mêmes aussi.
Et avec nous-mêmes, tout à fait. Donc cette entrée du rapport au sauvage et du rapport à l'altérité, la reconnaissance de processus qui me sont totalement étrangers et que je n'ai pas vocation à dominer, quand bien même ce soit une domination bienveillante, simplement cette espèce de suspens de l'emprise et du pouvoir, à mon avis, est une valeur qu'il faut, qu'on a en nous et qu'il faut cultiver et qu'il faut disséminer, car elle nous enrichit dans notre rapport à la nature, dans notre rapport aux autres et dans notre rapport à nous-mêmes. Par-delà cette question de l'intérêt que cela peut avoir pour nous, je pense aussi qu'on n'a plus le choix, entre guillemets, de faire un pas de côté par rapport au délire de domination. Et un des dangers de certains discours de l'Anthropocène, et qui sont des discours parmi les autres, et mon objectif c'est qu'ils ne deviennent pas le seul discours possible, c'est finalement de remplacer une domination aveugle, non éclairée, court-termiste, par une autre domination qui, elle, serait long-termiste, éclairée, et qui permettrait de piloter le système Terre. Ces mots se rencontrent très souvent dans la littérature, de piloter le système Terre de façon à le rendre durable et maximalement bénéfique pour les sociétés humaines d'aujourd'hui et du futur. Oh.
Mais moi, ça me dérange. Alors moi, je dirais que ça ne me dérange pas, parce que finalement, je me dis, bon, pilotons le système Terre, à long terme, on va vite se rendre compte qu'on a besoin de cette part de sauvage. On se rend compte, c'est-à-dire quand on commence à réfléchir, quand on a New York, il y a assez longtemps, qui s'est rendu compte qu'il valait mieux remettre des forêts aux sources qui l'alimentent en eau, parce qu'il se retrouve avec un bénéfice sur le traitement de son eau qui est non négligeable. C'est un pilotage, et c'est un pilotage qui amène du bénéfice et qui reconnaît à la nature sa place. Donc quelque part, c'est peut-être la phase de transition quand même qui est obligatoire. Non.
Alors, c'est très sympa de mentionner cet exemple du bassin versant des Catskills, qui a été effectivement, et qui est souvent cité, hein, qui est une sorte de mantra aussi de l'économie écologique, pour montrer que c'est le coût-bénéfice de la conservation peut être tout à fait favorable. Il y a eu, alors bon, de toute façon, les questions méthodologiques sont nombreuses sur la façon dont on évalue un tel rapport coût-bénéfice, mais semble-t-il que si on refaisait la même étude aujourd'hui, entre l'innovation technologique et l'effondrement du coût de la main-d'œuvre, du coût de la main-d'œuvre lié à des dispositifs institutionnels sur la loi du travail aux États-Unis, le rapport ne serait plus favorable à la conservation, mais à l'implantation d'usines d'assainissement. Alors, c'est un petit peu anecdotique, mais ça dit quelque chose du risque qu'on prend quand on veut faire reposer notre justification de la protection de la nature sur des outils aussi frivoles, j'ai envie de dire aussi évanescents que les évaluations économiques. Un nouveau type de filtre peut faire de la forêt amazonienne, je le dis en blaguant parce que je pense que c'est éminemment faux, mais on le voit avec la question de la pollinisation par exemple. On a des chiffres complètement déments qui parlent du coût du déclin des pollinisateurs, en même temps que les Monsanto, Bayer et autres développeurs de pesticides travaillent d'arrache-pied à produire des drones pollinisants. Et peut-être que dans 10 ans ou 20 ans, les abeilles seront totalement ringardes et que ce sera plus économiquement profitable de disperser des drones pour polliniser les vergers que des abeilles. Donc, c'est des petits exemples par-ci, par-là, mais le long terme et l'irréversibilité de certaines destructions de la nature font très mauvais ménage avec la volatilité des évaluations économiques. Et du coup, ça me permet d'enchaîner très rapidement sur des risques, et là encore je ne veux pas du tout avoir un discours catastrophiste, notamment que dans le champ de la protection de la nature, on fait beaucoup de choses et on les fait bien. Néanmoins, dans ces discours de l'Anthropocène, se niche ce risque d'absorption, de négation de la nature, et elle se niche dans trois sphères de l'agir humain. Faire de la nature une marchandise en ne se reposant plus que sur des mécanismes de marché ou inspirés, en réalité c'est jamais des marchés, mais c'est inspiré d'une logique de marché ou d'une logique coût-bénéfice pour évaluer l'intérêt des politiques de protection de la nature et éventuellement même pour les financer. Un mécanisme d'absorption dans la sphère technique et biotechnologique en particulier, où au nom de la protection de la nature, des biotechnologies extrêmement intrusives, voire même certains pensent à la résurrection d'espèces en clonant du génome, enfin en produisant des clones à partir de génomes d'espèces déjà disparues, produit une sorte de nouvel horizon. C'est un petit peu le post-humanisme des naturalistes.
Alors on peut dire qu'on aura certainement donné tous nos droits essentiels aux entreprises dans ces cas-là.
Complètement. Et puis une absorption également un peu plus insidieuse, on va dire, dans la sphère informationnelle et technocratique, où, faute de pouvoir enrayer la crise, on veut la surgérer. Et donc, il s'agit de produire une sorte de... Foucault parlait du biopanoptique, de surveillance globale, où la nature se retrouve totalement appareillée, totalement transparente, pour que plus rien ne nous échappe, où chaque ours, ça fait longtemps que c'est le cas, mais où chaque animal aura son GPS, sa GoPro, et où on va tout savoir, souvent même sans piloter, parce que c'est pas le fait de savoir, en l'occurrence, ne donne pas toujours le pouvoir d'agir. Et donc, il me semble que c'est un petit peu les trois écueils, les trois risques qui pèsent sur la pensée d'une nature effectivement récalcitrante, potentiellement hostile, extérieure, une extériorité qui peut se loger à l'intérieur de nous-mêmes et qui se loge, on le voit autour de nous, hein, dans les arbres. Là, il y a un petit lézard qui gravit le mur en face de moi. Il ne se demande pas si c'est du béton ou de la roche. Il gravit son mur tranquillement et il fait sa vie de lézard. Alors voilà, j'ai envie d'éveiller la vigilance, le souci sur la richesse qu'il y a à accepter humblement et parfois un peu passivement cette nature autonome, indépendante de nous, quand bien même il y a toute une partie de nos vies qui est une partie d'intrication entre les humains et la nature. Il y a aussi des choses qui nous échappent et c'est tant mieux comme ça.
Un petit mot de la fin, Virginie ?
Alors le mot de la fin, je l'adresse à mes amis, collègues qui se fâchent quand je parle de nature sauvage, parce qu'effectivement l'homme fait partie de la nature et il faut penser la reconnexion. Le fait d'admirer, de valoriser cette nature sauvage, extérieure, autonome, ne nous affranchit absolument pas d'élaborer de belle façon de faire avec, de vivre avec, d'imiter, de collaborer, de coopérer avec la nature dans nos villes, dans nos champs et même dans nos maisons. Donc il ne s'agit pas de dresser le faire avec un faire sans comme deux options exclusives. Non, il s'agit quand on fait avec de faire bien, mais aussi parfois de faire sans.
Ce sera le mot de la fin. Merci Virginie Marie. On rappelle ton livre, donc Au Seuil, La part sauvage du monde, penser la nature dans l'Anthropocène. Merci beaucoup, au revoir.
Merci.
C'était L'Ours et la Carotte. Écoutable sur Internet.